d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public en direct et en public du Salon du Livre à Paris, porte de Versailles. France Culture fête le livre et rencontre ses auditeurs. Merci à vous d'être présents ce matin pour porter avec nous un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, la sociologue Dominique Schnapper, la journaliste du Monde Sylvie Kaufmann, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine et l'économiste Daniel Cohen. Au sommaire de ce dimanche, une Europe à couteau tiré, avec Theresa May qui perd la voix dans la pétaudière du Brexit, tandis qu'Angela Merkel prend la parole pour critiquer le projet européen d'Emmanuel Macron. Mais d'abord, bien sûr, nous reviendrons sur le coup d'envoi de la campagne française des européennes, le débat Marine Le Pen-Nathalie Loiseau jeudi soir, le PS qui choisit l'essayiste Raphaël Glucksmann comme tête de liste, le tout sur fond de 18e journée de mobilisation des Gilets jaunes, nouvelle flambée de violence hier, grand calme au contraire chez les marcheurs pour le climat et grande mobilisation. Mais avant cela, je voudrais que l'on commence par évoquer ce massacre qui s'est déroulé vendredi en Nouvelle-Zélande. 50 morts, au moins 48 personnes blessées, après une attaque terroriste contre deux mosquées dans la ville de Christchurch. Le tueur, âgé de 28 ans, avait au préalable publié un manifeste raciste sur Twitter, avant de diffuser en direct des images vidéo de l'attaque. Un manifeste intitulé « Le grand remplacement », soit la terminologie du français Renaud Camus, 73 pages, qui expliquait pourquoi il allait s'en prendre à des musulmans, le tueur évoquant notamment un voyage en France au printemps 2017 en pleine présidentielle parmi les motivations de son attentat, expliquant avoir perdu la foi en la démocratie après la victoire, je cite, d'un ex-banquier mondialiste, capitaliste et anti-blanc, Emmanuel Macron, face à une insipide nationaliste, Marine Le Pen. Le tueur prétendant avoir reçu la bénédiction d'Anders Breivik, auteur du massacre d'Utøya en Norvège en 2011. Un mot avec chacun d'entre vous sur cet attentat qui nous rappelle, Hubert Védrine, que l'idéologie d'extrême droite peut aussi déclencher cette violence-là et que par-delà les continents, il existe un terreau idéologique commun qui peut conduire un tueur australien à citer Renaud Camus et Marine Le Pen.
Oui, mais je pense qu'il ne faut pas faire de nombrilisme prétentieux à l'envers. Il ne faut pas faire de masochisme français. Il y a des sources multiples à peu près partout dans le monde, là où il y a la lutte énorme à l'intérieur de l'islam, notamment dans l'islam sunnite, entre les musulmans en général et les extrémistes, vous avez des gens qui pensent ça. Ce n'est pas spécialement français. C'est même heureux qu'il n'y ait pas eu plus de passages à l'acte. Et malheureusement, statistiquement, il y aura toujours un gars pour aller au bout de cette violence. Je crois qu'il faut évidemment, par rapport à ça, augmenter toujours les précautions, essayer de prévoir ce genre de comportement, identifier ce type d'attitude, s'organiser. Et rien ne peut excuser ce type de violence atroce et aveugle. Hein. Mais je pense qu'il y a un effort supplémentaire à faire pour faire mieux connaître l'islam, mais pas avec des arguments gnangnang du genre « l'islam, c'est une religion de paix », ce qui n'est pas vrai. Il faut faire connaître mieux ce que disent les musulmans réformateurs, courageux, qui sont en lutte partout contre l'islamisme, ce qui fait que ça réduira un petit peu le nombre de fous qui vont tout mélanger, vous voyez. Il faut faire mieux connaître Boualem Sansal, Kamel Daoud, les femmes tunisiennes, énormément de théologiens musulmans qui disent « ne mélangez pas tout dans l'islam ». Alors je sais bien que malheureusement, il restera toujours un dingue sur un million bon, pour faire des choses comme ça, et ça peut changer un peu la perception générale qui alimente cette trouille qui peut conduire des gens déséquilibrés à passer à l'acte. Donc il faut faire les deux, se protéger, être très sévère et puis en même temps faire un travail de fond.
Sylvie Kaufmann, ce terrorisme-là, qu'est-ce qu'il nous dit de l'époque ?
Moi, il y a deux ou trois choses qui m'ont frappée au-delà de l'horreur de cet acte. C'est l'inspiration européenne, en effet, cette hymne serbe, ces références au grand remplacement que vous avez cité. Et puis, il y a aussi une référence à Donald Trump. Et le même jour, interrogé là-dessus, Donald Trump, évidemment sans cautionner du tout ce qui s'est passé, bien, il faut faire attention, mais a à nouveau parlé d'invasion des migrants. Et ce terme d'invasion, finalement, cette rhétorique, c'est un bruit de fond qui banalise finalement ce genre d'acte. Et puis l'autre chose qui m'a frappée, c'est Facebook Live. Donc ce terroriste a filmé en direct et transmis en direct sur Facebook Live son acte, et ça a duré 17 minutes avant que la police de Nouvelle-Zélande n'alerte Facebook et que Facebook mette fin à cette diffusion. Mais entre-temps, des dizaines de milliers de gens ont vu ça, ont assisté à ça, ont pu l'enregistrer sans doute, ce qui fait que ça a été supprimé, mais voilà, il reste quand même ces images absolument monstrueuses qui ont été vues dans le monde entier. Et je crois que Facebook, qui est très, très sollicité en ce moment, mais que la direction de Facebook devrait s'interroger vraiment sérieusement là-dessus.
Dominique Schnapper.
Je voudrais compléter un peu ce qui a été dit sur le choix de l'endroit de cette montée aux extrêmes qui est parallèle ou qui répond ou qui a d'autres montées aux extrêmes, en particulier les montées aux extrêmes islamistes. C'est le choix de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est un des pays qui a su le mieux gérer les relations interethniques, pas du tout comme l'Australie qui s'est très mal conduite à l'égard des populations autochtones. C'est pas le cas de la Nouvelle-Zélande qui est vraiment une image d'une démocratie apaisée et sachant traiter des différentes populations. Et en choisissant la Nouvelle-Zélande, il y a peut-être une question de hasard, mais malgré tout, la signification apparaît particulière. Et à l'intérieur de la Nouvelle-Zélande, Christchurch était une ville qui avait connu un tremblement de terre en 2011, dont beaucoup de population était partie, et il était arrivé de l'ordre de 1500 réfugiés qui avaient été installés là, et ça se passait bien. Ça se passait très bien. Et donc, d'attaquer cet endroit particulier, ça avait tout de même, pour ces fous, mais qui sont fous, mais qui ont une forme de rationalité dans leur folie, c'était dire, vous voyez, on croit que ça se passe bien, mais ça ne peut pas se passer bien.
Daniel Cohen.
Oui, il y a une blague qui dit, quand vous êtes face à un fou qui se prend pour Napoléon, la dernière chose que vous voulez faire, c'est commencer à lui parler de l'organisation des troupes pendant la bataille d'Austerlitz, parce que là, vous êtes perdant. Et c'est un peu la même chose. On est face à un fou, et avant de parler de l'islam, etc., il faut quand même ramener ce bonhomme à sa juste dimension. Je suis pas sûr qu'il soit nourri des théories du grand remplacement. Il est beaucoup plus sûrement nourri de la psyché de ceux qui vivent sur les vidéos, les jeux vidéo, et qui pensent que le monde, il est comme dans les jeux vidéo, qui cherchent dans le monde réel la confirmation de l'imaginaire qu'ils ont construit dans ce monde totalement virtuel. Pour reprendre ce que disait Dominique, il y a en Nouvelle-Zélande moins de 1% de la population qui est musulmane. Même en Australie, et en prenant évidemment, mettant au passif la manière dont les aborigènes, etc., ont été traités en Australie, il y a moins de 2% de la population qui est d'origine musulmane en Australie. Et puis on peut continuer sans cesse. Le Brexit, il n'a pas du tout été nourri par la phobie islamique. Il a été nourri par la phobie à l'égard des Polonais. Bon, donc à chaque fois, il y a de bonnes raisons de penser que c'est notre problème français, bon, ce qu'on voudra d'héritage postcolonial qui est en jeu. Il s'agit de tout à fait autre chose. Il s'agit d'une folie collective qui prend nos sociétés modernes à l'âge, effectivement, des Facebook, des jeux vidéo, avec des soldats perdus de ce monde virtuel qui cherchent à retrouver le terrain du monde réel dans leur manière pathologique à eux. C'est comme ça, d'abord, à mon avis, qu'il faut parler de ces personnes.
Merci pour ce prologue néo-zélandais qui nous semblait important ce matin. On va maintenant revenir à l'actualité politique française. Dans un peu plus de 2 mois maintenant, les élections européennes. Dans les partis, cette semaine, les choses se sont précisées. Le débat s'enclenche sur fond jaune.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Jeudi soir, Marine Le Pen était donc sur le plateau de France 2 pour une émission politique consacrée aux élections européennes. Il s'agissait pour la présidente du Rassemblement national de justifier comment le parti lepéniste était passé en quelques mois d'un programme prônant la fin de l'Union européenne et de l'euro à la volonté d'y rester pour changer l'Union de l'intérieur grâce à de nouveaux alliés, la Ligue de Matteo Salvini au pouvoir en Italie, le FPO au pouvoir en Autriche, etc. Des alliés qui devaient permettre de mettre en œuvre, je cite Marine Le Pen, une alliance européenne des nations. La présidente du Rassemblement national qui devait aussi jeudi soir se recrédibiliser après le naufrage de son débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle. Marine Le Pen bottant en touche lorsque l'on soulignait ses approximations, semblant gagner toujours le rapport de force dans la prise de parole face à une ministre, Nathalie Loiseau, qui en avait profité pour se porter candidate au poste de tête de liste LREM, bonne technicienne des sujets européens mais encore insuffisamment aguerrie aux joutes oratoires de ce type. En définitive, on avait commencé par se réjouir que le débat des européennes s'enclenche avant de se demander si dans la période actuelle et compte tenu des forces en présence, il pouvait réellement et surtout rationnellement avoir lieu. cacophonie de la politique française et en la matière, la gauche française se distinguait, partant en rang divisé, PC, Vert, génération de Benoît Hamon, chacun chez soi, le Parti socialiste se rangeant, lui, malgré des voix discordantes, derrière l'essayiste Raphaël Glucksmann. Cacophonie sur fond de 18e journée de mobilisation des Gilets jaunes, de nouvelles flambées de violence sur les Champs-Élysées, kiosques, immeubles, boutiques, restaurants, dont le célèbre Fouquet's, pillés, dégradés, brûlés. Parler d'Europe dans cette France-là ne serait pas une mince affaire.
Parce que là, j'ai vu que vous vouliez un SMIC européen. La ouais. Bulgarie, 4,40 euros. La France croit qu'on est à 36 euros, me semble-t-il. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire un SMIC européen, si ce n'est avec un moins 10 ans ?
Vous êtes à 36 euros c'est-à-dire pour quelle baissant, durée, Madame Le Pen ?
C'est-à-dire en baissant,
vous êtes à,
en réalité.
À 36 euros pour quelle durée du SMIC en France, Madame Le Pen ?
Ah, parce que vous voulez...
Bah, je sais pas, c'est 36 euros. La France est à 36 euros. C'est...
Non, mais ça change rien, Madame Loiseau.
Bah, 4,40 euros, juste avoir la Bulgarie. Question, mais c'est quoi la Roumanie, c'est une journée, c'est une semaine, c'est quoi ?
Il y a des militants qui viennent des différents partis de gauche et qui disent, mais en fait, on va même pas faire campagne parce que... À quoi ça sert de faire campagne les uns contre les autres ? On pense la même chose.
Mais vous allez vous battre les uns contre les autres.
Mais non,
là.
On va les rassembler. On va les rassembler, j'en suis convaincu. On va pas se cacher. On va aller au contact des autres et les inviter à faire campagne avec nous.
Voilà, vous aurez reconnu sans doute les voix de Marine Le Pen, Nathalie Loiseau et Raphaël Glucksmann. D'un bord, un mot avec vous, Sylvie Kaufmann, sur ces images qui, de nouveau, hier, tournaient en boucle, celles d'un Paris où ça brûle, où ça casse. Journée ultimatum, avait prévenu les leaders des Gilets jaunes sur leur page Facebook pour se rappeler au bon souvenir d'un pouvoir qui bouclait cette semaine la phase principale de son grand débat national. Dans d'autres rues aussi, les images infiniment plus paisibles des marches pour le climat. Cette France ou ces Frances dans la rue, leur sujet, ce n'est pas vraiment l'Europe.
Non, non. Et on a vu hier à l'œuvre trois modes d'expression en parallèle qui sont tous les trois hors des modes de représentation, des modes classiques de représentation politique. On a le grand débat qui s'est terminé et qui de l'avis général est un succès, mais qui malgré son succès n'a pas chassé les Gilets jaunes, n'a pas chassé la dynamique des Gilets jaunes. Il a donné une voix à l'autre France, à celle qui veut dialoguer et débattre, plutôt que de protester dans la rue. Ces deux populations, les Gilets jaunes et ceux qui ont débattu, même si quelquefois ça a pu coïncider, mais je crois que ça a été assez peu le cas finalement, ces deux populations ne se sont pas rencontrées, même si elles ont pu exprimer des préoccupations souvent communes. Donc on a le grand débat, on a la violence qui est repartie et qui pose un vrai problème maintenant d'ordre public, parce que finalement, les techniques policières sont contestées, elles sont d'une certaine manière sollicitées pour ramener l'ordre. Il y a une demande de ramener l'ordre, mais ces techniques policières qui sont considérées comme trop brutales, y compris à l'étranger et par certaines institutions internationales, et même par le défenseur des droits d'ailleurs, Jacques Toubon, nourrissent à nouveau la contestation. Et puis le troisième mode d'expression, c'est la manifestation pacifique, celle du climat, celle des marches pour le climat et pour l'écologie, qui sont massives, qui revêtent aussi cette action en justice, la marche du siècle, après une pétition signée par 2 millions de personnes, voilà, et qui met aussi le pouvoir devant une autre difficulté, qui est celle de concilier transition écologique et justice sociale.
Daniel Cohen, comment on parle d'Europe dans cette France-là ? Comment on lance la campagne des Européennes dans ce contexte-là ?
Ben, d'une autre manière que celle qui a été faite jeudi soir. Franchement, quand Marine Le Pen, à la fin des missions, dit, après ce moment clownesque où Madame Loiseau explique qu'elle a changé d'avis pendant les missions pour être finalement candidate, Marine Le Pen lui dit « Je suis ravi que vous soyez candidate, que ce soit vous que j'ai en face de moi ». Et je pense que c'était un vrai moment de sincérité. Elle est ravie qu'en effet, le match soit bien dans cette forme-là, le Rassemblement national avec tout ce que ça charrie, et puis en face, une femme certainement excellente par ailleurs, mais qui incarne exactement ce que le Front National s'est donné comme ennemi, c'est-à-dire une femme issue de la haute fonction publique, loin du peuple, etc., même si au passage... avec cette histoire du SMIC, c'est quand même Marine Le Pen qui a montré qu'elle s'en mêlait les pinceaux. Enfin, on a compris après qu'elle avait repris à la virgule près d'autres statistiques, celle du coût moyen du travail en France et non pas celle du SMIC. Mais comme Nathalie Loiseau n'avait pas l'air d'être tout à fait au clair sur le SMIC, elle n'a pas pu lui dire c'est trois fois plus. Elle a dit qu'elle durait, bon, c'était un peu euphémisé. Mais moi, ce que je reproche à cette émission, pour rester sur ce point, c'est que ça installe bien que le débat, il est entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. J'aurais préféré, ça va vous faire sourire, Émilie, que le contradicteur de Marine Le Pen soit François-Xavier Bellamy. Parce que, au fond, c'est bien à l'électorat, tout le monde l'a compris comme ça, c'est à l'électorat des Républicains que s'adressait pendant toute son émission Marine Le Pen. C'est cet électorat-là qu'elle voulait convaincre en disant « je suis pas pour l'augmentation du SMIC ». Voilà, elle essayait d'élargir sa base sociale et elle n'avait pas de contradicteur à ce moment-là. Donc, soit on accepte une fois pour toutes que les données de la vie politique française, c'est entre le parti centriste et Madame Le Pen, soit on essaye de donner un peu plus de vie et de subtilité à ce débat, et on essaye de voir à l'intérieur de la droite où sont les contradictions, et à l'intérieur de la gauche où elles sont. Peut-être que ça viendra dans un deuxième temps, mais je crois que c'est l'immense frustration qu'on a ressentie tout au long de ce débat, c'est qu'on était bien installé dans cette caricature d'un débat entre voilà, le pouvoir et l'ennemi qu'il s'est choisi, à savoir Marine Le Pen.
Au fond, Dominique Schnapper, ce que souligne très bien à l'instant Daniel Cohen, c'est qu'on est confronté à deux choses, à la fois le lancement de cette campagne des européennes et par ailleurs la recomposition du paysage politique français qui se poursuit et qui n'est pas achevé.
Alors je voudrais compléter un petit peu ce qu'a dit tout à l'heure Sylvie sur les trois manifestations qu'il y a eu hier, puis il y avait d'un côté le grand débat qui se continuait, il y avait la violence, il y avait la manifestation pour le climat. Alors le grand débat, c'est le débat démocratique, ça fait partie de la démocratie. La manifestation, telle qu'elle s'est déroulée sur le climat, le droit de manifester, ça fait partie des libertés publiques. Je me demande tout de même si dans le cas des casseurs, on n'est pas sorti du débat démocratique, c'est-à-dire que le droit de manifester, c'est pas le droit de casser. On est sorti de la manifestation et du droit de la manifestation à quelque chose qui ressemble à une émeute, et que en le mettant sur le même plan, on ne prend pas en compte cette différence de nature du mouvement. Alors, cela dit, dans ce cadre, je suis ce qu'a dit Daniel. Il est évidemment pas souhaitable que la vie politique se définisse uniquement par une opposition entre un centrisme raisonnable et compétent d'un côté et Madame Le Pen. Mais le problème, c'est que les élections vont dans cette direction. On peut souhaiter que Raphaël Glucksmann reconstruise une gauche de filiation social-démocrate. Pour l'instant, on n'y est pas encore et ce sera pas facile, parce que quand il dit on pense la même chose, malheureusement sur l'Europe, j'ai pas le sentiment que les différents groupes de gauche qui se sont formés pensent la même chose sur l'Europe, et que donc cette réunion à l'occasion de l'Europe sera très difficile, même si on peut évidemment souhaiter qu'il y ait l'expression d'une gauche qui ne soit pas extrême.
Hubert Védrine, ce que posait néanmoins comme problème l'émission de jeudi soir, c'était de savoir comment on débat dans ce nouveau contexte politique où les voix populistes sont dominantes. Qu'est-ce que les Le Pen, Salvini et autres changent à ce débat public, et en quoi aussi, d'une certaine manière, ils changent de fait la règle du jeu?
Alors, je suis un peu embarrassé pour vous répondre parce que je n'ai pas regardé cette émission. Je regarde d'ailleurs très très peu les émissions politiques. Mais je voudrais quand même rappeler que l'enjeu dans cette affaire, c'est de désigner 79 parlementaires français sur 705. Alors chacun peut avoir ses convictions et vouloir désigner plutôt des candidats de Macron, ou de la droite, de l'extrême gauche, etc., ou des socialistes s'il en reste des morceaux, mais en tout cas c'est ça l'enjeu. D'après les projections qu'on peut connaître, il y aura une montée de ce qu'on appelle les populistes, qui est juste un sous-produit du décrochage des classes populaires par rapport au projet européen. Et ça ne va pas bouleverser l'équipe générale. De toute façon, il ne s'agit que du Parlement européen, qui a des pouvoirs importants dans certains domaines, mais pas beaucoup, des pouvoirs partagés dans d'autres, et aucun pouvoir dans d'autres domaines où ils font des déclarations, où ils n'ont pas de pouvoir. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas important, je ne dis pas qu'il ne faut pas voter, il faut voter, mais je voudrais relativiser l'enjeu. Et si on se projette dans l'état global de l'Europe, quand on voit par exemple la réponse de la nouvelle patronne de la CDU, Emmanuel Macron, elle est en train d'essayer de recentrer la CDU sur sa base de droite classique, parce que Madame Merkel n'est plus représentative de la CDU. Bon, donc, je ne pense pas qu'on puisse s'attendre dans les années qui viennent à un vrai bond en avant, pour ceux qui l'espèrent, mais pas l'inverse non plus. Il n'y a pas de signe de désagrégation, parce que même les populations les plus énervées veulent garder l'euro. Donc, c'est important jusqu'à un certain point, mais la suite aussi, les autres élections en France, en Italie, en Allemagne, c'est au moins aussi important que les élections de fin mai.
Vous n'avez pas l'air d'accord, Dominique Schnapper, sur l'idée qu'il faut relativiser aussi l'enjeu de ces élections européennes.
Non, je crois que c'est tout à fait ce que vient de dire Hubert Védrine est tout à fait juste. Mais d'un autre côté, nous savons que jusqu'à présent, les élections européennes ont eu généralement des objets nationaux et ont mis en compte des objets nationaux. Or, c'est le premier vote qui a lieu depuis l'élection du président de la République et du point de vue national, quelle que soit la limite que vous avez soulignée de l'élection européenne, elle aura un effet sur la légitimité affaibli en ce moment du président de la République. D'autre part, moi non plus, je n'ai pas vu l'émission de télévision, donc je n'ai pas de jugement ferme sur ce qui s'est passé.
Seul Daniel Cohen regarde la télévision.
Voilà. Je ne la regarde pas d'habitude, mais on nous a demandé de la regarder explicitement.
Merci
pour cette télévision.
Merci de le rappeler,
alors,
en effet.
Savoir, il y a personne qui fait son boulot ici.
Ça n'était pas possible.
C'est pas faux, c'est pas faux.
Alors, c'est lui, deux, alors.
Mais je voudrais quand même dire qu'il me semble que pour répondre à Madame Le Pen, il ne faut pas se mettre sur le même plan parce qu'elle sera toujours plus forte dans ce style-là et que la réponse par des arguments rationnels est quand même la seule possible si on veut donner un minimum de niveau au débat politique et que Madame Loiseau, que je ne connais pas et que je n'ai pas entendu une fois de plus, en invoquant des raisonnements, se remettait dans la situation du fameux débat entre les deux tours.
De l'entre-deux-tours de la présidentielle. Hubert Védrine, vous vouliez compléter.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. C'est vrai que ce sera un instrument de mesure très précieux dans chaque pays pour voir le rapport de force interne à la France, interne à l'Allemagne, interne à l'Italie, interne à la Pologne. Ça, c'est évident. Mais je relativisais sur le fait qu'on ne joue pas à qui tout double l'avenir de l'Europe dans cette affaire. Voyez.
Daniel Cohen, vous rappeliez cette semaine dans l'Obs qu'il s'agissait aussi avec ces élections de mesurer en quoi les Français étaient attachés ou non à l'Europe, et c'est-à-dire surtout à l'euro. Vous avez rappelé notamment que les personnes non diplômées continuent d'attribuer à 85% la baisse de leur pouvoir d'achat à l'euro, ce qui nous ramène au contexte français des Gilets jaunes.
Oui, mais absolument. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe de départ, c'est que l'euro est plus populaire que l'Europe. C'est une chose que les hommes politiques, les femmes politiques découvrent quand ils font l'exercice du pouvoir. Je vais donner l'exemple d'Alexis Tsipras, qui vient au pouvoir sur fond d'une détestation de l'Europe, de la Commission, des programmes d'austérité, et qui découvre au passage qu'en fait, les Grecs restent attachés à l'euro. Je pense que la même chose est en train de se passer en Italie. L'Europe, c'est l'ennemi absolu à cause des passoires migratoires, etc., tout le récit que Salvini peut construire. Mais au fond, les Italiens ne veulent pas sortir de l'euro parce qu'ils y voient la promesse d'un chaos monétaire, financier, dont ils n'ont pas envie. Donc il y a un paradoxe ici, qui est que la campagne électorale elle-même se déporte complètement du sujet de l'euro, pour aller vers d'autres sujets, les frontières, alors que malgré tout, je refais écho à ce que disait Hubert tout à l'heure, malgré tout, la question de l'euro, et c'est votre question, n'est pas réglée. La question de l'euro n'est pas réglée. Si demain, il y a une crise monétaire, financière majeure, et on peut en avoir une, parce qu'on est tout de même en train de revenir vers un scénario de crise économique, de croissance lente, qui peut entraîner les Italiens, il y a besoin d'institutions fortes pour faire face à cette nouvelle crise. Mais le soutien à l'euro, quel point de départ de ce que je dis, c'est deux tiers de gens favorables ou très favorables à l'euro, un tiers qui y sont hostiles. Le tiers qui est hostile, c'est le même tiers que celui qui soutient très fortement les Gilets jaunes aujourd'hui. Ça veut dire que le soutien de l'euro, oui, en général, bien sûr, mais il y a un noyau dur, c'est le même que celui qui proteste dans les rues, qui y a vu le synonyme, alors, de baisse de pouvoir d'achat. Ça peut être d'ailleurs imaginaire, on n'est pas tout à fait sûr, enfin les économistes n'arrivent pas à trouver la trace que l'euro a créé de l'inflation, alors que c'est un peu la représentation populaire. Mais plus généralement, l'ancrage de l'euro dans la société exactement retrouve les contours de ce dont on parle. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, parce que on peut pas, dans une société comme la France, faire passer par pertes et profits les classes populaires. Ici, le gros tiers de gens qui se reconnaissent dans la question du pouvoir d'achat qui est posée par les Gilets jaunes.
Et ce sont là les sujets fondamentaux, vous avez raison de les préciser, Daniel Cohen, mais Sylvie Coffin, est-ce que vous avez vraiment le sentiment qu'on va pouvoir les tenir, ces débats-là? On a bien vu cette semaine, jeudi, sur la télévision, que ni l'économiste Philippe Aguillon, ni Matteo Renzi ne réussissaient à être audibles, à être crédibles, audibles en tout cas, face à Marine Le Pen.
Oui, alors
Alors ça, c'est le problème Marine Le Pen. C'est vrai qu'elle a une, elle a un talent pour abaisser le débat et pour abaisser ses interlocuteurs, les amener au même niveau qu'elle, qui est assez
Mais comme Matteo Salvini en Italie, comme un certain nombre de ténors qui font le débat public aujourd'hui.
C'est vrai, c'est un vrai problème. Il y a aussi, je crois qu'il y a la, ça montre aussi la nécessité, ça met l'accent sur la nécessité pour les autres d'affiner leur programme, d'affiner leurs revendications, de dire exactement ce qu'ils veulent. Moi, j'ai regardé sur le site Place Publique, j'ai essayé de
Raphaël
trouver
Glucksmann.
Dans voilà, le site du mouvement politique qu'a créé Raphaël Glucksmann.
Et qui sera donc tête de liste pour le Parti Socialiste.
Voilà, donc j'ai eu envie de savoir qu'est-ce qu'il voulait, à quoi, quelle est son Europe, quelle est cette Europe pour laquelle il plaide. Je n'en sais rien. Il parle d'une Europe démocratique, solidaire et écologique. Très bien, mais Macron aussi il plaide pour ça. Il dit que dans une interview au Monde, il dit nous avons une vision de l'Europe diamétralement opposée à celle de Macron et Le Pen. Mais elles-mêmes, ces deux visions sont déjà diamétralement opposées. En quoi est-ce qu'il est diamétralement opposé ? Voilà. Je crois qu'il faut vraiment être plus précis. Je crois que la démarche de Glucksmann, elle est là vraiment dans une c'est une démarche électorale et c'est utile. Nous sommes au début d'une campagne électorale. Je rappelle que c'est le 26 mai, donc on a encore le temps de discuter au fond. Mais voilà, là, on est aussi dans une autre histoire qui est celle dans laquelle le PS joue sa survie, se sauve, s'efface devant quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui ne propose rien de concret, qui est très flou, pour survivre.
Alors, en effet, avant de passer à l'actualité européenne, Daniel Cohen, peut-être pouvez-vous rassurer Sylvie Kaufmann ou lui préciser ce que sera la proposition de gauche dans cette campagne des européennes, en tout cas celle que va porter Raphaël Glucksmann avec le Parti Socialiste et Place Publique.
Je crois que ça dépasse la question du PS et de Raphaël Glucksmann. Il y a une nouvelle gauche qui est en train de s'inventer. Elle va en ordre totalement dispersé à cette élection européenne, mais de fait, je laisse la France insoumise parce qu'elle a sa singularité. Mais si on prend Benoît Hamon, la liste de Glucksmann et la liste des Verts, je pense fondamentalement qu'ils pensent exactement la même chose. Alors voilà ce qu'ils pensent. Ils pensent que la critique du capitalisme, qui fait partie de l'ADN nécessaire de la gauche a besoin de produire un au-delà du capitalisme pour rassembler. Elle ne peut pas simplement devenir gestionnaire des faits et s'aligner sur la gauche réformiste. Elle pense que cet au-delà du capitalisme, il est à chercher dans l'écologie, c'est-à-dire que l'au-delà du capitalisme aujourd'hui doit s'incarner dans une aspiration à une société post-matérialiste qui sortirait du productivisme et qui sortirait de la façon dont aujourd'hui la société est construite. Ce qui lui manque à faire, je vous rejoins là Sylvie, c'est le chemin qui permet non seulement de comprendre comment on va passer de cette société matérialiste à une société qui ne le serait plus, qui le serait moins, et on voit quand même toutes sortes de choses se dessiner, mais aussi et surtout peut-être refaire le lien avec les classes populaires. C'est toujours la même chose. On peut définir un idéal écologique dans lequel on travaillerait autrement, peut-être moins, dans un environnement qui ne serait pas celui d'aujourd'hui. Il faut trouver des jalons. Il y a tout de même eu une contribution très intéressante qui a été faite par Hulot et Berger qui montre qu'il y a un chemin pour réconcilier la crise sociale et la crise écologique. Maintenant, il faut le remplir de choses. C'est ça que cette gauche nouvelle doit faire. Mais encore une fois, je crois fondamentalement que tous les trois pensent exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont substitué l'idéal communiste, on va dire, des années d'après-guerre par un autre qui est celui-là. Alors, il faut voir l'état de décomposition de la gauche aujourd'hui comme peut-être le moment d'une refondation. Je dis ça, évidemment, avec la dose de naïveté qui vaut. Pour rejoindre ce que disait aussi Hubert, il faut plutôt le voir comme de nouvelles primaires qu'à proprement parler l'expression de différence. Mais il faut espérer que de ce processus naîtra quelque chose qui permette à cette gauche de se réinventer, encore une fois, selon un peu les lignes directrices que Hulot et Berger ont dessinées, ce qui se cherche concrètement aujourd'hui pour les rassembler.
Sylvie Kaufmann.
Vous oubliez juste un élément, c'est la liste conduite par Yannick Jadot, et qui pour l'instant est en tête.
Il l'a mentionné.
Je l'ai mis dedans.
Et donc,
j'ai dit Hamon, Glucksmann et Jadot,
d'accord.
Je pense fondamentalement que tous les trois, non, je les mets les trois, et que si on les ajoute, ils feront un petit 20%, mais qui est exactement ce qui est nécessaire pour prétendre un jour arriver au deuxième tour. Donc, ce groupe-là, je ne dis pas ça pour l'opposer à la France insoumise, mais je pense que on retrouve les lignes de partage PS-PC qui ont toujours existé, quelque chose de cette nature, mais ce qui est en train de se dessiner, c'est les contours d'une nouvelle gauche, encore une fois, qui, je crois, a trouvé l'idéal post-capitaliste dont elle a besoin depuis 10 ou 20 ans pour sortir de cette gestion des choses dans lequel la gauche réformiste s'est trop longtemps laissée enfermée.
Et pour être tout à fait complet, on précisera que la France Insoumise a désigné Manon Aubry et le parti communiste Yann Brossat. Je crois qu'on n'avait pas encore cité les noms de ces candidats-là. À présent, on va s'intéresser aux autres temps forts de l'actualité européenne de la semaine. La saga désespérante du Brexit et l'offensive allemande contre le projet français pour l'Europe.
France Culture, l'Esprit public, Émilie Aubry.
Suivre l'actualité du Parlement britannique cette semaine donnait un peu le vertige. Jour 1, rejet de l'accord négocié avec les Européens pour divorcer en bons termes. Jour 2, rejet du principe de quitter l'Union européenne sans accord. Jour 3, décision d'aller demander un report de la date du divorce au 30 juin 2019. Semaine cauchemardesque pour la chef du gouvernement britannique, au point d'en avoir perdu la voix. Au même moment, en Allemagne, Angela Merkel exprimait d'une voix claire, à l'occasion d'une conférence de presse avec son homologue letton, ses divergences avec le projet européen d'Emmanuel Macron, validant les propositions de sa dauphine AKK, nouvelle chef de la CDU, rebaptisée en France Madame Niette, parce qu'elle disait non à l'Europe de la protection sociale, non à l'idée macronienne d'un salaire minimum européen, remettant en cause les subventions agricoles, reprenant l'idée d'un siège commun permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, suggérant de supprimer le domicile strasbourgeois du Parlement européen afin de tout concentrer à Bruxelles. Bref, cette semaine, entre cacophonie britannique et cacophonie franco-allemande, l'Europe, c'était beaucoup de vacarme et aucune harmonie. Monsieur le Président.
Vous auriez dû entendre la voix de Jean-Claude Juncker. Après notre conversation, le danger pour ceux qui veulent qu'on respecte leur vote pour le Brexit est que si cet accord n'est pas validé ce soir, le Brexit pourrait être perdu.
Je pense que c'est une très bonne chose qu'Annegret Kramp-Karrenbauer, à la tête du parti CDU, ait annoncé la position du CDU pour les futures élections européennes. Le fait que la France soit sceptique au sujet d'un siège européen à l'ONU est un fait connu. Nous avons, depuis de nombreuses années, une position régulière sur ce sujet. Nous affirmons que nous voulons un siège européen commun aux Nations Unies.
Vous aurez ou pas reconnu les voix d'Angela Merkel et de Theresa May légèrement enrouées. Parlons d'abord de ce Brexit qui ressemble de plus en plus à une histoire sans fin, Hubert Védrine. Et Theresa May qui ressemble, c'est vrai, de plus en plus aussi à Sisyphe, condamnée à porter éternellement devant le Parlement le dossier du Brexit et de ne jamais parvenir à ses fins.
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Les Anglais eux-mêmes n'y comprennent rien. On n'a pas de... Moi, je regrette le Brexit et je pense que dans les années avant la prise de risque exagérée par Cameron sur ce référendum, on aurait pu, du côté européen, être plus malin, plus s'ouvrir à certaines demandes britanniques, pas toutes. Je pense que c'est tout à fait désolant. Je n'exclus pas que le peuple anglais, qui est un peuple quand même hors du commun, rebondisse un jour, j'en sais rien. Et puis, de toute façon, puisque même ils n'y comprennent rien, ce n'est pas la peine de gaspiller notre salive là-dessus. En revanche, c'est intéressant de réfléchir à la suite. Si la Grande-Bretagne sort vraiment au bout du compte, dans la lettre d'Emmanuel Macron, qui est en fait, qui a plus de chances d'aboutir parce qu'elle est beaucoup plus réaliste que les discours de la première année, qui était complètement utopique, sympa, mais...
Que le discours de la Sorbonne, vous voulez dire.
Là, il y a des propositions, par exemple, d'un Conseil de sécurité en Europe, dans lequel il met la Grande-Bretagne. Et c'est présent également dans la lettre de Madame Annette... Enfin,
AKK, disons, bon, c'est plus simple.
Qui ne dit pas non à tout, en fait. Elle revient aux positions classiques, elle reprend cette idée stupide d'un siège européen. Aujourd'hui, jusqu'à ce que les Européens arrivent à fusionner leurs pensées sur l'international... Un siège commun pour l'Europe, c'est quelqu'un qui s'abstiendra dans 9 cas sur 10. Il n'aura jamais... Donc c'est une perte pour l'Europe. C'est idiot aujourd'hui. On va préparer des conditions qui permettraient d'eux le moment venu. Donc au lieu de regarder les points de différence entre ce qu'a dit Macron, qui est déjà beaucoup plus réaliste et plus faisable quand même qu'au début. Et puis l'Allemagne qui revient, j'ai dit, aux fondamentaux, c'est des vous, même moins européens que Kohl. Il faut regarder les points de convergence. Il y en a quand même 3 ou 4.
Alors juste avant en effet de parler de ces divergences ou de ces points d'entente entre la France et l'Allemagne sur leur vision européenne, un petit point technique avec vous, Sylvie Kaufmann, qui est une technicienne de ces sujets. Qu'est-ce qui se passe si le Brexit est effectivement reporté en juin 2019? Qu'est-ce qui se passe dans le cadre de ces élections européennes?
Alors, soit il reste après le 1er juillet, et auquel cas il faut... Le 1er juillet, c'est la fin du mandat de l'actuel Parlement européen. Le nouveau, celui qu'on va élire le 26 mai, doit entrer en fonction le 2 juillet. Donc si les Britanniques bénéficient d'un report au-delà du 1er juillet, il faudra impérativement qu'ils élisent des représentants, parce que c'est comme ça que... Sinon, il faut qu'on modifie les traités, que tous les pays revotent sur les traités. Donc c'est pas possible. Voilà, ça dépendra de la longueur du report. Il semble maintenant à peu près inéluctable qu'il y ait un report au-delà du 29 mars, qui est presque demain. La question, c'est est-ce que c'est un report de 2 mois ou est-ce que c'est un report de 21 mois, qui est une hypothèse qui prend corps, là, qui a pris corps cette semaine et qui paraît de plus en plus possible. The Economist, cette semaine, le magazine britannique, a une proposition que je trouve intéressante. Parce qu'il dit un report court ne sert à rien. Si les Britanniques n'ont pas été capables d'élaborer une stratégie pour le Brexit en 2 ans, comment vont-ils faire maintenant dans l'état dramatique dans lequel se trouve la politique britannique, parce qu'elle est littéralement en miettes, tout leur système politique de compromis s'est écroulé. Donc comment peuvent-ils en formuler une autre en 2 mois? Donc laissons-leur 21 mois, ce qui veut dire qu'ils vont à nouveau élire des représentants au Parlement européen, en effet. Et demandons au gouvernement britannique de formuler quelques propositions de compromis qui seront soumises au Parlement sur d'autres bases, c'est-à-dire on repart à zéro. Et une fois que ces quelques propositions de compromis auront été adoptées par le Parlement, elles seront à nouveau soumises à référendum, mais là vraiment sur des choses précises et non plus êtes-vous pour ou contre le Brexit. Voilà.
Merci d'avoir été aussi clair qu'on puisse l'être quand on essaie de parler du Brexit. Cette semaine, on va en effet maintenant en venir au match des projets pour l'Europe entre la France et l'Allemagne, avec, on va repréciser les choses, cette tribune de Annegret Kramp-Karrenbauer, la nouvelle patronne de la CDU, qui répondait à celle d'Emmanuel Macron la semaine précédente. À la lecture de ces deux textes, Daniel Cohen, vous dites divergence profonde mais terrain d'entente, comme Hubert Védrine, ou crise profonde du couple franco-allemand?
Je dirais il n'y a plus de couple franco-allemand, personnellement. C'est-à-dire, je ne vois pas les forces motrices qui, aujourd'hui, permettent, à horizon de cette législature qui s'ouvre, de faire évoluer les lignes du projet européen. Donc, on est, en effet, installé aujourd'hui dans la stagnation institutionnelle. Bon, on peut considérer que c'est pas si mal compte tenu de la montée des forces adverses et qu'il faut tenir le coup avant que des jours meilleurs ne reviennent. Mais la grande promesse avec l'élection de Macron de retrouver un couple franco-allemand qui est le dynamisme de Giscard et d'Helmut Schmidt ou le dynamisme de Mitterrand et d'Helmut Kohl, je crois qu'on voit que ça ne marche pas pour une raison extrêmement simple, c'est que un des deux partenaires, Angela Merkel, entre-temps a disparu parce que elle est en train de préparer sa succession, qu'on voit cette fameuse AKK se préparer à prendre sa place. Et quand cette AKK, on dit ça parce qu'on n'est pas tout à fait capable de donner
et non germanophone,
Komplererkamp, je sais pas quoi. Bon, on n'arrive pas à dire exactement qui elle serait sinon. Mais quand on voit qu'elle dit, même si ça ne veut rien dire, en réponse à la proposition de Macron, pas question de faire cette espèce de mutualisation des pertes dans lequel le contribuable allemand viendrait régler les comptes des autres. Bon, c'est une façon de dire toute idée de monter d'un cran dans la construction d'une zone euro qui serait un peu plus solidaire, qui mettrait en place des mécanismes de régulation, et que à l'inverse, elle réaffirme l'idée qu'il faudrait substituer au Conseil de sécurité le poste français par un poste européen, elle donne à Madame Le Pen des arguments incroyables. Pour revenir sur cette émission que seule la moitié des invités ici ont vu jeudi soir, ça a été un moment où Madame Le Pen s'en est très bien sortie. Elle dit, le traité d'Aix, au fond, c'est préparer la sortie de la France du Conseil de sécurité, ce qui est évidemment totalement ridicule, il n'est pas question de ça. Mais quand, à la lumière de cette proposition de Madame Akaka, elle reprend mot à mot les termes « on va consulter nos alliés européens, on ne prendra de position qu'après avoir préalablement vérifié que c'était en conformité avec l'idée de ses partenaires », ce qui évidemment des formules un peu creuses qui ne veulent rien dire, à la lumière de la proposition allemande, elle dit « mais voilà ce que les Allemands mettent derrière ces mots creux, voilà leur idée ». De l'Union européenne, et donc évidemment, elle fait progresser la cause inverse. Donc c'est quand même un mauvais moment à passer, parce que on voit qu'il n'y a plus aucune force pour constituer quelque chose de solide, et même la proposition, qui est évidemment intéressante, de repenser Schengen à la lumière d'un autre principe qui est, on est dans une frontière unique, mais en échange, il faut une péréquation des demandeurs d'asile. Bon, c'est intéressant, ça veut dire revenir sur Dublin, enfin il y a beaucoup de choses qui sont derrière. J'ai du mal à penser qu'il arrive à se constituer aujourd'hui en Europe une manière d'arriver à ça. C'était d'ailleurs un des points faibles que Madame Loiseau a essayé d'exploiter, qu'elle n'a pas vraiment réussi, mais à cause de la hauteur de ton, voilà, la voix de Madame Le Pen, mais c'était quand même très intéressant. L'alliance entre Salvini et Le Pen, ici, elle n'est pas possible, parce que je crois qu'au fond, Salvini, il souhaiterait une redéfinition de Schengen selon ces principes-là, c'est-à-dire, ok, on est dans Schengen, mais vous prenez votre part du fardeau, entre guillemets, enfin, de la question migratoire. Donc, bon, moi, je crois qu'on est parti pour 5 ans à rien faire, à essayer de gérer l'existant, dans l'espoir que ça aille mieux dans 5 ans. Si on pense que dans 5 ans, la situation économique, la situation politique ne va pas s'améliorer, parce qu'il y aura au milieu une crise, parce que tous ces démons vont réapparaître, c'est tout de même une très très mauvaise nouvelle.
L'Europe est partie pour 5 ans à rien faire, Dominique Schnapper.
Je voudrais rajouter un petit peu quelque chose sur l'Angleterre, parce que ce à quoi on assiste est quand même très inquiétant. C'est une espèce vraiment de décomposition de la démocratie représentative qui a été inventée par les Anglais. Nous sommes tous plus ou moins anglophiles quand on défend la République représentative. Or, ce à quoi on a assisté, c'est quand l'intérêt du parti politique prend le pas sur toute forme d'intérêt collectif. Parce que tout ça, le drame s'est déclenché quand M. Cameron a voulu introduire le référendum, qui est contraire à l'esprit des institutions démocratique en Angleterre, et que le résultat du 23 juin 2016, et pourquoi l'a-t-il avancé, c'est pour régler ses problèmes à l'intérieur du Parti conservateur. Donc c'était l'intérêt du Parti conservateur qui passait avant, et il a été le premier surpris, et M. Boris Johnson, livide, a été encore plus surpris. Et à partir de là, Mme May, dans l'intérêt de ce qu'elle pensait être le parti, a pris un certain nombre de décisions qui, dans les négociations avec l'Europe, qui ont été catastrophiques. Et tout le drame en ce moment, avec ces 3 votes de la semaine dernière, qui sont d'une certaine façon contradictoires. Il y a eu aussi un vote que vous n'avez pas signalé, c'est un vote contre un nouveau référendum. C'est ce qui complique encore la situation. Tout ça, c'est pour un accord provisoire et qui remet un accord définitif par la suite. C'est-à-dire que l'Angleterre se décompose son système politique. Il y aura peut-être un problème du coup avec l'Écosse, dont une bonne partie peut remettre en question le Royaume-Uni. Donc on est dans une situation qui a aussi son influence sur les négociations européennes, parce que elle donne une image un peu dramatique de ce que deviennent nos démocraties. Et elles occupent l'activité des institutions européennes autour de ce problème maintenant depuis plus de 2 ans. Si ça se conjugue avec une crise économique, les institutions européennes seront dans l'incapacité de faire autre chose que ces négociations absurdes. Alors dans le dialogue Merkel-Macron, enfin un dialogue qui n'est pas direct, mais qui était tout de même un dialogue, il y avait une différence à la fois de forme, de ton et de fond qui était assez frappante, mais on en a déjà parlé, avec une part de décision ou de ou de conception commune qu'il ne faut pas non plus négliger.
Au fond, pour faire le pont entre vous deux, entre Daniel Cohen et Dominique Schnapper, est-ce que le drame de la période, Sylvie Kaufmann, n'est pas que tous les leaders politiques de la période font de la politique interne et ne font pas de politique européenne? C'est le cas de Theresa May et d'une certaine manière, c'est le cas aussi d'Angela Merkel.
Oui, bien sûr, il y a un manque de capacité à dépasser la vision nationale qui est un vrai problème à l'heure actuelle. Bon, on est aussi en période électorale, il ne faut pas perdre ça de vue. C'est vrai que chacun voit aussi cette échéance qui est bien sûr européenne, mais qui se joue dans chaque pays à l'échelle nationale.
Et en précisant peut-être aussi que Angela Merkel et Emmanuel Macron au Parlement européen ne feront pas partie du même groupe.
Et j'allais dire, malheureusement, je suis désolée d'ajouter une autre crise aux crises déjà graves que vous avez citées, c'est ce psychodrame du PPE, donc le Parti Populaire Européen, qui est le groupe qui rassemble les partis de centre-droite, théoriquement, mais qui compte aussi le parti de Viktor Orban en Hongrie. Et donc, cette espèce de danse du ventre qu'est allé faire le patron de ce PPE, Manfred Weber, l'allemand Manfred Weber, à Budapest pour essayer de convaincre Viktor Orban de s'excuser pour toutes les offenses qu'il a commises. Je passe les détails parce que ça serait trop long, mais pour essayer d'éviter de l'exclure sous la pression de certains partis membres du PPE. Donc on a une division au sein de ce groupe dont font partie les Républicains français qui sont très attentifs à surtout ne pas se prononcer et à rester en dehors de tout ça. Donc on a aussi cette division entre extrême droite ou droite, disons droite nationaliste de certains pays d'Europe, y compris en Italie, et centre-droit qu'on n'arrive pas à surmonter et qui est très grave.
Alors, réussir à surmonter les différences en essayant quand même, et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, Hubert Védrine, de souligner les terrains d'entente. Vous avez dit, il y a des terrains d'entente aujourd'hui entre, on va dire, AKK, Merkel, Emmanuel Macron, comme dans cette volonté de voir l'Europe acquérir une autonomie stratégique face à Washington, Pékin et Moscou, français et Allemagne, vous l'avez rappelé, soutenant par exemple l'un et l'autre l'idée d'un Conseil de sécurité européen qui inclurait Londres même après le Brexit. On pense qu'ils sont aussi d'accord sur une police des frontières, sur une régulation de l'immigration, sur un financement européen de l'innovation. C'est un socle commun qui dessine l'Europe de demain ?
Pas toute l'Europe, mais vous donnez des exemples précisément de choses concrètes sur lesquelles les désaccords qui s'expriment en ce moment, comme c'est bien normal en période électorale, permettraient d'avancer quand même. Mais je pense qu'en étant plus réaliste encore que d'habitude, on peut être moins inquiet. Parce qu'en fait, le couple franco-allemand, il n'y en a plus depuis longtemps. Depuis le départ de Kohl et Mitterrand et depuis la réunification. Et jamais entre Schröder et Chirac, ou Merkel et Hollande, ou Sarkozy, il y a eu de couple. Il y a eu à un certain moment un accord raisonné, intelligent, mais il n'y a pas de couple au sens d'ardente obligation. Il faut qu'on abandonne cette rhétorique. Il n'y a que les Français qui parlent de ça. Et ce n'est pas désespérant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se mettre d'accord. Vous venez de donner des exemples tirés des échanges récents que certains présentent comme antagonistes et sur lesquels on pourrait travailler. Par contre, il ne faut pas rêver. Par exemple, l'histoire du social, aucun pays européen ne veut de l'extension du pseudo-système social français. Aucun. On n'aura jamais aucun soutien à ça. C'est pas que la méchante CDU. Par contre, la remise à plat de Schengen dont parle Macron, il a raison. Là, il n'y a pas de vrai désaccord, en fait. On le verra après les élections entre les Européens qui veulent tous avoir une meilleure maîtrise des flux migratoires. Pas fermeture, meilleure maîtrise. Simplement, la bataille, ce sera qu'il faudra sanctuariser le droit d'asile en s'assurant qu'il n'est pas massivement détourné, comme c'est souvent le cas. Mais il n'y a pas une impossibilité d'accord après. Alors, vous avez cité un Conseil de sécurité, ça serait très, très bien. Très bien. Si, pas tous les pays, pas les 27, mais 4, 5, 6 pays s'engageaient là-dedans. Je pense qu'il y a un autre exemple. Regardez, les États-Unis se retirent de l'accord sur les forces nucléaires intermédiaires en Europe, qui était le résultat heureux de la bataille des euromissiles gagnée par l'Occident. Du coup, les Russes vont dire, puisqu'ils se retirent, nous, on va prendre des mesures. Donc, ils vont ajouter des missiles, je ne sais pas où. Bon, il ne faut pas rester passif. Ce n'est pas parce que la Grande-Bretagne va sortir du système communautaire, mais pas de l'Europe, qu'il ne faut rien faire. C'est un exemple typique où rien n'empêche dans les traités que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne fassent une proposition d'objectifs, de processus, de cadre sur une redéfinition de la sécurité en Europe. Donc, toutes les histoires de la campagne électorale actuelle ne nous paralysent pas.
Autre exemple concret, Hubert Védrine, la proposition allemande d'un porte-avions européen. On sait bien que ça ne va pas déclencher l'enthousiasme dans l'Hexagone.
Oui,
donc, c'est
ça,
aussi
c'est
les limites de ce genre de.
C'est comme la brigade franco-allemande. Moi, j'ai participé à tout ça. À l'arrivée,
pourquoi c'est bidon? Pourquoi c'est bidon?
Qui le commande? Et qui l'envoie? À quel endroit? Pour quelle mission? Si vous demandez au Conseil européen, vous avez pour 3 semaines à savoir où on l'envoie. Bon, c'est du gadget, ça, c'est pas intéressant. Par contre, fabriquer en commun des systèmes de défense de différentes sortes, c'est intelligent. Il faut convaincre les autres Européens, comme les Belges, de ne pas acheter américain. Donc là-dessus, il faut être moins prétentieux, moins creux, moins déclaratoire et plus concret. Mais il y a des pistes, il y a plein de pistes.
Daniel Cohen, je sens que vous aviez envie de réagir à ce que disait à l'instant Hubert Védrine sur la partie sociale, sur le volet social de cette vision européenne. Est-ce que, comme lui, vous vous résignez à renoncer à toute dimension sociale de l'idée européenne?
Vous avez dit ça quand même.
Les autres pays
ne veulent pas prendre ça comme une donnée.
Daniel Cohen.
Oui, mais enfin... Désolé, chacun plaide pour sa paroisse, mais l'économie dans le monde contemporain, ça compte. Ça compte beaucoup, et peut-être même qu'au bout du compte, il n'y a que ça qui compte vraiment. C'est-à-dire, à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Et ça, l'Europe ne peut pas exactement continuer comme elle fait maintenant. Elle a besoin de réfléchir à la manière, en tout cas certainement la zone euro. Ça fait d'ailleurs partie du problème. Si on parle de l'Europe, effectivement, aujourd'hui, l'Europe, ça ne marche pas. C'est pas ça dont il faut parler. Il faut parler de Schengen, il faut parler de la zone euro, et d'ailleurs, quand on parle de ce Conseil de sécurité, on est déjà en train de sortir de l'Europe. Et puis, ensuite, il faut savoir si on parle de l'Europe comme des agences intergouvernementales nouvelles, on n'a pas besoin de l'Europe pour faire ça, ou si on est en train de parler de l'Europe, c'est-à-dire un système dans lequel il y a une commission qui est capable de porter un intérêt général face à un Parlement qui soit son contre-pouvoir, et en réalité c'est ça dont on s'éloigne aujourd'hui, et c'est ça qui est très préoccupant, parce qu'il y a besoin de quelque chose comme ça pour que la zone euro tienne. Il y a besoin d'avoir un pouvoir économique, financier, qui soit le vis-à-vis de celui qui est donné à la Banque Centrale Européenne pour que ça tourne. Il ne faut pas oublier ce formidable déséquilibre au cœur du réacteur qui est la zone euro. Et quand je vois l'Europe aujourd'hui, ben je vois la France, l'Allemagne, l'Italie, c'est-à-dire des pays qui sont dans des trajectoires politiques totalement divergentes. Et donc, il n'y a pas de couple franco-allemand absolument. Hubert a raison de dire que depuis Mitterrand-Kohl, cette histoire a disparu. Mais on ne voit plus le cercle des coalitions. Même Schengen, revisité par Macron, qui paraît l'idée de base, simple. Je ne suis pas du tout sûr que l'Allemagne imposera à la Hongrie ou à la Pologne de se soumettre à cette chose-là. Est-ce qu'elle choisira de s'aliéner ses alliés économiques de l'Europe de l'Est pour faire plaisir à ce nouveau dispositif? On verra, ça sera un très bon test, mais là je parierai pas sur le fait que ça va advenir. Donc on est dans une situation de chaos politique à l'échelle de l'Europe qui est à l'image de ce dont parlait Dominique tout à l'heure sur la situation anglaise. Il n'y a plus des bons gros axes à la fois en Europe ou à l'intérieur de chacun des pays pour fédérer des oppositions simples et qu'on puisse comprendre et des coopérations. Tout part dans tous les sens. On est dans une période de très très grande fragilité. Ça m'inquiète à la fois en interne et en externe.
Ouais.
Et on verra bien, encore une fois, si on survivra les prochaines années.
Brièvement et en guise de conclusion, Dominique Schnapper et Sylvie Kaufmann, au fond, c'est l'histoire toujours répétée entre la France, l'Allemagne et la vision européenne. Chacun veut préserver son point fort. L'Allemagne, puissance économique, n'a guère envie de jouer la carte de la mutualisation économique européenne. Et à l'inverse, la France, puissance géopolitique, n'a guère envie de mutualiser siège onusien et industrie de défense.
Si on veut être optimiste, on peut prolonger ce qu'a dit Hubert Védrine tout à l'heure et penser que le retrait des États-Unis donne une nouvelle chance à l'Europe. Parce que je ne sais pas si les Européens ont de nouveau une volonté politique, mais la situation géopolitique globale, avec la Chine, la Russie, la Turquie et le retrait américain, va peut-être les conduire à retrouver la forme de projet politique qu'ils ont eu après la Seconde Guerre mondiale, qui était une espèce de résistance au soviétisme, au communisme soviétique. Donc, si on peut être optimiste, et il faut l'être, c'est que dans ce risque de décomposition, il y a un facteur positif, c'est que la situation géopolitique va peut-être imposer à l'Europe d'avoir ce minimum de volonté politique, faute de quoi elle n'existera pas. Parce que, bien entendu, toute la dimension économique et sociale, qui est pour l'instant la dimension européenne, c'est le problème. C'est que et l'exemple anglais nous a montré l'imbrication des économies entre les différents pays européens, ça c'est le fait, mais de là avoir une volonté politique, il faut passer au niveau politique, et c'est là où on peut se dire, c'est là où on peut être optimiste, peut-être que la situation va imposer aux Européens de retrouver ce projet politique.
Vous partageriez cet optimisme conclusif, Sylvie Coffin ?
Je pense que c'est effectivement les conditions qui sont réelles et qui, enfin, le contexte devrait nous imposer ça, devrait nous imposer ce sursaut, mais je ne le vois pas encore venir. Et je voudrais juste terminer malheureusement sur une note pas très moins optimiste, regardons aussi l'Allemagne, ce qui se passe en Allemagne. On parle toujours des crises en France, des crises en Italie, des crises en Grande-Bretagne. L'Allemagne est différente, elle est beaucoup plus calme, elle fait ça de manière beaucoup plus modérée, si je peux dire. Mais la crise en Allemagne, elle est profonde. On a une Allemagne qui est en ce moment en pleine crise existentielle aussi. Et je prendrai juste un exemple, non pas celui du porte-avions européen, et je partage assez l'opinion d'Hubert Védrine sur le fait que c'est une proposition bidon, parce qu'elle est irréalisable, mais l'Allemagne a pris cette semaine une décision qui est de ne pas augmenter son budget de défense. Et ça va exactement à l'encontre de ce que vient de décrire Dominique Schnapper, alors que les États-Unis insistent avec une certaine légitimité pour qu'on augmente les budgets de défense et que le contexte mondial l'impose, l'Allemagne va à contre-courant. Et ça, c'est incompréhensible.
Merci beaucoup à tous les quatre. Ce sera le mot de la fin. Une question pour Dominique Schnapper et Daniel Cohen. Vous avez bien noté dans votre agenda ce que vous faisiez lundi autour de 18h. Rassurez-nous.
Je suis avec Hubert, je dîne avec Hubert.
Eh bien non, pardon, mais je vous le rappelle, avec Monique Kantosperber, Daniel Cohen, Dominique Régnier, Dominique Schnapper, mais aussi Thierry Pech, Frédéric Worms, René Friedman et d'autres, 65 intellectuels sont conviés lundi à l'Élysée pour le grand débat des idées avec le chef de l'État, le tout animé par notre matinalier préféré Guillaume Erner et retransmis sur cette antenne, sur l'antenne de France Culture lundi, donc après le journal de 18h et également en vidéo sur franceculture.fr. Moi aussi j'ai une annonce à faire puisque la semaine prochaine je vous donne rendez-vous cette fois-ci au théâtre de l'Odéon. Attention, nous enregistrerons l'émission samedi à 14h avec Christine Ockrent, Aurélie Filippetti, Dominique Régnier et Thierry Pech. L'Odéon, samedi prochain, 14h. Venez avec nous débattre de l'actualité politique et géopolitique de la semaine, réservée dès à présent sur le site du Théâtre de l'Odéon. Ce matin, nous étions donc en direct du Salon du Livre. Merci à vous tous. Vous êtes très nombreux ce matin à être venus assister à l'émission à l'Esprit Public, Porte de Versailles, sur le stand de France Culture. Merci à Marine Beccarelli qui a préparé, comme toujours, avec moi cette émission, à Luc-Jean Reynaud qui l'a réalisée, à la technique aujourd'hui, Emmanuel Morse-Duncan, Martin Guénard et Sébastien Buel. Tout de suite et avec plaisir, je vais laisser la place à Caroline Brouet pour les bonnes choses, spécial Salon du Livre, alors bien sûr, focus sur les livres de cuisine. À la semaine prochaine à l'Odéon, je compte sur vous, et lundi soir pour le débat avec le chef de l'État, le monde des idées. Bonne semaine à tous.